Chapitre 9. Un embrasement mondial et ses grandes étapes. Cours 4. L'enfer des combattants. Jamais autant d'hommes n'ont été mobilisés dans une guerre, et jamais les combattants n'ont autant souffert. L'historien cherche à comprendre comment ils ont pu supporter cet enfer. A. Une nouvelle forme de guerre. Une mobilisation massive. 70 millions de combattants sont mobilisés. À l'exception du Royaume-Uni, qui recrute des volontaires, tous les belligérants ont recours à la conscription. Les femmes volontaires sont refusées dans les armées occidentales, mais certaines combattent sur le front oriental. Des armes destructrices. L'artillerie est à l'origine de 70% des décès. L'utilisation des mitrailleuses fait des ravages lors des offensives de 1914 et dans les tranchées. De nouvelles armes sont inventées. En 1915, les Allemands utilisent pour la première fois un gaz mortel à la deuxième bataille d'Ypres. Les premiers chars, créés par les Britanniques, font leur apparition lors de la bataille de la Somme. L'aviation militaire se développe et introduit une troisième dimension dans les combats. Elle menace les combattants au sol et fournit des informations sur les positions ennemies. La guerre de position. Pour se protéger des mitrailleuses, les soldats s'enterrent dans des tranchées. Celles-ci sont constituées de plusieurs lignes successives reliées par des boyaux. Les moyens défensifs l'emportent alors sur les capacités offensives. Le conflit s'éternise et les batailles de tranchées peuvent durer des mois. B. L'expérience traumatisante du combat. Des soldats peu expérimentés. L'essentiel des troupes est composé de conscrits et non de soldats de métier. En Grande-Bretagne, la New Army est constituée de 2,5 millions de volontaires, dont certains ne sont pas formés avant d'être envoyés au front. Survivre à la guerre impose tout un apprentissage. Les jeunes recrues sont pour cette raison les plus exposés. Une violence extrême. La guerre de mouvement est très meurtrière. Dans la bataille de Charleroi du 21 au 23 août 1914, l'armée française perd au moins 20 000 hommes. Dans la guerre de position, les assauts se déroulent toujours de la même manière. L'artillerie lourde pilonne les lignes ennemies avant que les soldats ne sortent de leurs tranchées, rampent sous les barbelés, puis traversent le No Man's Land sous le feu des mitrailleuses. Un combattant sur deux est blessé au moins une fois, certains sont amputés ou atrocement défigurés, gueule cassée. Des conditions de vie inhumaines. Les conditions climatiques sont difficiles. Pluie et froid dans l'est de la France. Moins 25 degrés Celsius à Verdun en 1916. Chaleur et malaria dans les Dardanelles. Au front, les soldats ne peuvent souvent ni se laver ni se changer. Ils vivent dans la hantise des attaques surprises et des gaz. Cette angoisse est renforcée par la proximité des cadavres, impossibles à évacuer, et par le bruit incessant des tirs d'artillerie. Beaucoup de combattants développent une obusite. C. Comment les soldats ont-ils tenu? Les raisons de la ténacité. Combattre ne relève pas d'un choix. Les soldats sont plus résignés qu'enthousiastes et acceptent la mobilisation par sens du devoir. Un devoir civique intériorisé depuis le plus jeune âge. Il faut obéir aux lois et défendre la patrie. Ce patriotisme est entretenu par la propagande qui diabolise l'ennemi et conforte les combattants dans leur volonté de protéger leur famille. La ténacité s'explique aussi par la solidarité entre camarades de tranchées et par la crainte du conseil de guerre. Les manquements à la discipline militaire sont en effet sévèrement sanctionnés. Les refus de guerre. Les trêves et les fraternisations entre les deux camps montrent que les soldats s'affranchissent parfois de la propagande nationaliste. Ces mouvements sont tolérés parce qu'ils ne contestent pas ouvertement le commandement. Les refus de guerre restent minoritaires, sauf dans la Russie en révolution. En 1917, environ 40 000 poilus se mutinent, non sous l'effet d'un discours pacifiste, mais pour arrêter les offensives aussi sanglantes qu'inutiles lancées par l'état-major français. Celui-ci renonce alors à percer le front, procède à des exécutions pour l'exemple et prend des mesures pour améliorer le quotidien des soldats.